Réplique, reconnaître la Palestine, point d'interrogation, avec Pierre Lelouch et François Loncle. Après la Chambre des communes britannique et quelques jours avant le Parlement européen, l'Assemblée nationale et le Sénat français ont approuvé une résolution portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Voici le texte de cette résolution. Constatant la montée des tensions à Jérusalem et en Cisjordanie, qui menacent d'engendrer un nouveau cycle de violence néfaste pour l'ensemble des populations de la région, le texte souligne, premièrement, que le statu quo est intenable et dangereux, car il nourrit les frustrations et la défiance croissante entre les deux parties. Deuxièmement, souligne l'impératif d'une reprise rapide des négociations entre les parties, selon des paramètres clairs et un calendrier déterminé. Troisièmement, affirme l'urgente nécessité d'aboutir à un règlement définitif du conflit permettant l'établissement d'un État démocratique et souverain de Palestine en paix et en sécurité aux côtés d'Israël sur la base des lignes de 1967 avec Jérusalem pour capitale de ces deux États et fondée sur une reconnaissance mutuelle. Quatrièmement, affirme que la solution des deux États promue avec constance par la France et l'Union européenne suppose la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés de celui d'Israël. Cinquièmement, invite le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit. François Loncle, ancien ministre et député de l'Eure, a voté pour cette résolution. Pierre Lelouch, ancien ministre également et député de Paris, a voté contre. Je leur demanderai donc, pour entamer la discussion, de justifier leur choix. François Loncle.
Je suis, je le dis modestement, avec mon collègue Benoît Hamon à l'origine de cette proposition de résolution. Vous savez que la modification constitutionnelle en 2008, à l'initiative du gouvernement de l'époque, permet aujourd'hui que le Parlement vote des résolutions. Et il n'y a pas de séparation entre des résolutions de politique intérieure et de politique extérieure. La résolution, et vous avez vu et vous avez lu la conclusion, se termine par une invitation au gouvernement et non pas par une injonction. On sait très bien que c'est l'exécutif qui, à terme, se saisira de notre résolution pour l'appliquer. Si on en reparlera, je vous donnerai des informations là-dessus. Donc je suis à l'origine de cette résolution. Je l'avais été en 2011, avant la clôture de la dernière législature, avec Jean-Marc Ayrault. Et parallèlement, d'ailleurs, mon collègue UMP, Hervé de Charette, avait déposé le même type de résolution. Pourquoi ? Parce que il y a évidemment, on dirait pas des années, mais des décennies, on peut dire pratiquement depuis la résolution de l'ONU qui agréait la création d'Israël, que ce problème est posé. Et à travers de nombreux échecs, des guerres, des combats, des intifadas, des luttes insupportables, rien n'a vraiment avancé. On le voit avec les tensions auxquelles nous faisons allusion dans cette résolution. Moi, je suis guidé par la pensée de Pierre Mendès-France, non seulement parce que j'occupe sa circonscription, qu'il m'avait guidé dans mes premiers pas politiques, mais parce qu'il avait, sur ce sujet en particulier, une vision d'avenir, une vraie vision d'avenir. Il s'y est attelé dans les décennies 70 en particulier, il est décédé en 1982, et il avait produit des textes et des discours extrêmement forts sur ce sujet avec ses collègues israéliens. Vous le savez, il y a de nombreux discours position officielle qu'il a pu prendre. Je vais simplement vous en lire une, elle n'est pas très longue, elle date de 1974, c'est-à-dire 40 ans. Il disait dans un colloque, la création d'un État palestinien, stricte application des droits de l'homme les plus certains, requiert l'acceptation de certains risques qui résultent de l'existence d'un centre d'agitation, de tendances multiples et dont il est permis d'espérer qu'ils s'apaiseront progressivement avec le temps. C'est momentanément matière à de graves préoccupations, il n'en demeure pas moins que si les Palestiniens ont vocation d'être libres et indépendants, s'ils le veulent, ils ont le droit, s'ils le veulent, d'avoir leur propre patrie. Dans la même mesure, cette vocation et ce droit ne sauraient être mis en question quand il s'agit des Israéliens. Voilà la seule position irrécusable.
Et donc, c'est, vous inscrivez
et dans tout à fait
la filiation
dans cette ligne
de Mandat France, et c'est la raison pour vous de...
Exactement, je me souviens en avoir discuté avec lui. Je me souviens aussi que, avant que François Mitterrand prononce son célèbre discours de la Knesset, il y avait eu des contacts sur ce sujet avec le président Mandat France.
Alors, Pierre Lellouche.
Mon nom, d'abord, il est fondé sur une connaissance profonde du terrain, puisque... j'ai consacré ma vie bien plus à la politique étrangère qu'à la politique nationale et je connais le Proche-Orient depuis l'âge de 20 ans. Donc je connais bien et les acteurs israéliens et les acteurs palestiniens et les deux peuples. Ce nom, il s'appuie sur trois arguments qui sont d'ordre différent. Le premier, qui n'est pas léger, est constitutionnel. La modification de la Constitution de 2008, qui introduit le droit de résolution, ne donne pas pour autant... au Parlement, le droit de modifier les attributions du domaine réservé de nos institutions, que sont les questions diplomatiques et de sécurité nationale. Ça, c'est le domaine réservé du président. Je note qu'en l'espèce, le ministre des Affaires étrangères n'était même pas là le jour de la résolution, du vote de la résolution, et le président est resté totalement silencieux. Le Premier ministre aussi, d'ailleurs.
Il était là pendant tout le débat.
Oui, enfin, je me semble pas avoir vu... Il me semble pas avoir vu Laurent Fabius...
Il a fait un discours important pour mais signifier pas pendant la suite de cette
D'abord, Monsieur Long, moi je vous adore, mais je ne vous ai pas interrompu, je vous ai laissé vous exprimer.
Ce n'était pas une interruption, c'était peut-être non, mais nous une contestation
pensons,
factuelle.
Non, c'est pas, factuellement, il n'était pas là.
D'accord.
Si, il était là le vendredi du débat, tout au long du débat, et il a fait le discours de clôture.
Le jour du vote.
Ah, le jour du
Long,
vote, monsieur.
Il était là ou il n'était pas là
il était à Bruxelles.
Ah bon.
Voilà.
Donc, voilà. Et on est bien d'accord.
Le jour du vote.
Voilà.
Donc,
les choses sont élucidées.
C'était d'ailleurs très intéressant que le ministre soit pas là le jour d'un vote aussi important. Très intéressant aussi que le président de la République n'ait rien dit. Le Premier ministre a fait savoir qu'il était plutôt réservé ou hostile. Il n'a rien dit non plus. Nous pensons que nous ne sommes pas le Parlement européen et qu'on ne vote pas à tort et à travers des résolutions qui touchent notamment au domaine réservé. Telle majorité reconnaît aujourd'hui la Palestine. Demain, pourquoi pas le Kurdistan ou le Haut-Karabakh ou la Crimée, ou je ne sais quoi encore. On peut s'amuser à ça, suivant les majorités. Donc il y a un premier problème qui n'est pas léger. Moi, quand j'avais demandé, par exemple, un peu plus tôt cette année, au gouvernement, de bien vouloir faire appel d'une décision, j'ai invité, c'est la formule consacrée, le gouvernement français à faire appel de la décision dans un délai de 3 mois d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui venait d'obliger la France à inscrire dans le droit civil français les enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger, ce qui est interdit dans notre code civil et pénal, eh bien le gouvernement n'avait pas donné droit à cette demande. Et pourtant je l'invitais, ce n'était pas une exhortation, ils n'ont pas fait appel, n'ont pas tenu compte de la résolution. Mais ils n'ont même pas inscrit la résolution à l'ordre du jour. Or celle-ci l'a été d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un élément de politique intérieure, c'est mon troisième point. Mais le point central, c'est quand même le fond. Pourquoi est-ce qu'une reconnaissance, aujourd'hui, sans accord de paix, est un problème ? Si vous voulez, à l'UMP, c'est pas chez les gaullistes qu'on ne reconnaît pas la Palestine. On reconnaît la Palestine depuis le début. Mais on reconnaît la Palestine dans le cadre d'une paix négociée. C'est le point d'arrivée, si vous voulez. Là, on en fait le point de départ. On dit, il y a un blocage. Il est sérieux et inquiétant. Nous partageons ce constat. Mais on dit, pour en sortir du blocage, il faut reconnaître la Palestine, ça va aider à débloquer la négociation. Nous pensons que c'est exactement l'inverse. Nous pensons que, d'abord, ça va ne faire que raidir la négociation, ça va compliquer la marche diplomatique de la France et Laurent Fabius, en ce moment même, travaille à une résolution à l'ONU sur le sujet. Et plus grave encore, pourquoi est-ce que, depuis 40 ans, on dit que la reconnaissance de la Palestine vient dans le cadre d'un accord de paix ? Bah, tout simplement parce que, pendant très longtemps, l'OLP elle-même ne reconnaissait pas le droit d'Israël d'exister. Et aujourd'hui, dans le gouvernement d'Union nationale palestinienne, il y a une partie de ce gouvernement, le Hamas, qui continue à dire, parce que j'ai la charte, parce que monsieur l'oncle a lu Mendès France, et moi je suis d'accord avec ce que disait Mendès France en 1974, il dit rien d'autre que ce que je viens de dire. Il faut que les deux États vivent ensemble.
Rien d'autre Mais regardez ce que nous avons fait.
Monsieur l'oncle, regardez ce que dit une partie du gouvernement que vous venez de reconnaître unilatéralement. Ils disent... Il n'existe pas de solution à la question palestinienne, excepté le djihad. Les initiatives, propositions, les conférences internationales ne sont qu'une perte de temps et des tentatives vaines. Ils disent plus loin, dans leur traitement nazi, les juifs ne font aucune exception pour les femmes et les enfants et suit un véritable délire qui explique que les juifs contiennent dans le monde entier... La presse, les maisons d'édition, les stations de radio, ils sont derrière la Révolution française, la Révolution communiste, les francs-maçons, les clubs Rotary et les Lions. Voilà les gens qui sont associés au gouvernement actuel de la Palestine et que vous venez de reconnaître. Ils disent ensuite, sous la bannière de l'islam, les fidèles des trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme, peuvent exister pacifiquement. Mais cette paix n'est possible que sur la bannière de l'islam, c'est-à-dire avec le statut de dhimmi. C'est moi qui rajoute dhimmi. J'ai pas envie d'être dhimmi. Et en même temps, et je pourrais continuer parce que c'est un texte qui est disponible.
Vous pourrez relire aussi la charte de l'OLP Yasser
Arafat. Il y a eu une évolution.
Un certain nombre d'aberrations.
C'est exactement mon point, monsieur l'oncle. Il y a eu une évolution de la charte de l'OMP. Tout simplement parce que nous, pendant des années, nous avons dit, et l'Europe aussi depuis 1978, nous sommes prêts à reconnaître un État démocratique vivant dans la paix. Ça implique la reconnaissance mutuelle. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement palestinien, je le regrette, il est divisé en deux. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que la résolution qui vient d'être adoptée, et qui est beaucoup plus soft, du Parlement européen, qui a été l'objet d'un compromis entre la droite et la gauche, ce qui n'a pas été possible de faire à l'Assemblée nationale, malgré mes demandes réitérées à Mme Guigou, la présidente de la Commission des Affaires étrangères. Je lui ai dit, écrivons-la ensemble, cette résolution. Qu'a dit le Parlement européen ? Le Parlement européen dit, reconnaissance concomitante aux négociations, ce qui est différent. Et il dit surtout, il faut que les Palestiniens se réconcilient et que le Hamas renonce au terrorisme. C'est ça qu'il y a dans la résolution du Parlement européen. Il n'y a pas ça dans la résolution française. Et j'en suis bien navré.
François Long.
Quand je dis française, résolution du Parti socialiste, puisqu'il n'a pas été possible de faire une résolution commune.
François Long, j'interviendrai.
Il me reste le troisième point sur la politique intérieure, qui est loin d'être négligeable.
Oui, à la politique intérieure, et je souhaite absolument qu'on en parle. Voilà. Je laisse François Long s'exprimer.
Je voudrais quand même répondre aux affirmations de Pierre Lelouch. Moi, je respecte évidemment ses convictions. Mais sur le plan constitutionnel, qu'il a cité au début, mais c'est une modification constitutionnelle de 2008 et rien n'empêche, mais strictement rien. Sinon, on l'aurait su. Sinon, le Conseil constitutionnel ou je ne sais pas quel organisme nous aurait averti en disant « Halte là, vous n'avez pas le droit de voter ce type de résolution puisque c'est de la politique étrangère ». Pas du tout. On peut voter des résolutions sur tous les sujets de la vie publique.
Mais est-ce que ça ne peut pas créer un précédent un peu inquiétant, comme disait Pierre Lelouch ? Toutes sortes de reconnaissances qui risqueraient de perturber la politique étrangère de la France.
Bien évidemment, d'abord, il faut que l'initiative soit parlementaire, ça a été le cas. Et il y a eu des contestations lorsqu'il s'est agi de voter, par exemple, sur le génocide arménien. Mais ça, c'était avant la réforme. Vous savez qu'il y a eu tout un débat.
Oui.
Vous avez certainement traité de ce sujet dans votre émission sur la façon dont les parlementaires, par rapport aux historiens, pouvaient réécrire ou écrire l'histoire.
Oui,
c'est pas tout à fait le
sujet.
Là, il s'agit d'un grand sujet, d'un grand sujet d'actualité.
Faisons le Kurdistan.
Rassemble très au-delà des frontières politiques. Songez que c'est la première fois depuis pratiquement 2012 que nous avons eu un score pareil. Il y a eu 9 députés UFP qui ont voté ce texte, 4 députés UDI et l'ensemble de la majorité, y compris d'ailleurs les communistes. Au Sénat, plus serré.
Ça arrive rarement en ce moment.
Et c'est une conjoncture, vous avez fait allusion au débat britannique. il y a eu le débat suédois, oui. Il y a eu le débat espagnol.
Ce ne sont pas les mêmes textes.
Il y a Federica Mogherini qui a pris une initiative intéressante, cela contraste avec l'inertie de Mme Ashton avant, et qui finalement, au niveau européen, aboutit à une autre résolution. Que ce ne soit pas exactement les mêmes textes,
faut être honnête, là.
C'est peut-être évident, mais je ne me laisserai pas interrompre juste à la fin de ma démonstration sur le temps que nous avons pris à faire en sorte que cette résolution soit très équilibrée,
oui, alors justement,
avec toutes les précautions que nous prenons par rapport à Israël.
Oui, vous
nous
prenez
avons travaillé
précautions.
3 semaines
d'accord.
À partir de l'idée que alors, Benoît Hamon et moi-même avons eue.
Quand même.
Et puis j'ajoute une chose,
oui.
Puisque Pierre Lellouche y a fait allusion, il y a eu beaucoup de réunions entre nous, il y a eu des contacts, il y a eu de longs entretiens avec Laurent Fabius au Quai d'Orsay, et il y a eu une rencontre avec François Hollande que nous sommes allés voir pour jauger un peu quelle était son approche de cette question.
Mais,
et nous avons eu, permettez-moi de le dire, une sorte de feu vert.
Feu vert, bah d'accord. Mais vous dites c'est un texte équilibré. Quand même, avant ce que j'ai lu, cette résolution constate les menaces pesant sur la solution des deux États, et notamment la poursuite illégale de la colonisation dans les territoires palestiniens. Rien n'est dit sur le Hamas, la menace que fait peser d'ailleurs le pouvoir du Hamas à Gaza sur la solution de deux États. Rien n'est dit non plus de la situation qui est faite aux réfugiés palestiniens dans tous les pays arabes, où ils subissent là un véritable apartheid avec des interdictions professionnelles, notamment au Liban, ce qui fait peser une menace parce que ces réfugiés réclament le droit au retour. Donc on a quand même le sentiment que la faute incombe exclusivement à Israël. Nous y reviendrons. L'immobilisme israélien est catastrophique, mais on ne peut pas dire que cette résolution soit équilibrée. Et équilibrée, quant à Pierre Mendès-France, je me souviens d'un texte où il disait que le retour aux frontières de 67 était absolument impossible parce qu'il y a des moments où Israël faisait 10 km de largeur et que ça ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Donc voilà, est-ce que le texte n'aurait pas être un tout petit peu plus équilibré ?
Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose ?
Non, François Lonclé, voilà. Tout de suite vous.
Très oui. Alors,
et je me tais.
Mais vous avez...
On reparlera et... Pierre Lellouche et vous-même avez eu raison d'évoquer en particulier le Hamas. Mais vous avez dit gouvernement divisé, s'il fallait ne rien faire par rapport à chaque gouvernement qui serait divisé, on n'aurait pas beaucoup de travail à faire. Mais je mets de côté parce que ce que vous dites sur le Hamas est exact et nous sommes parfaitement conscients des dangers que fait peser cette organisation et des problèmes que cela... évoque lorsqu'on veut avancer sur le dossier israélo-palestinien. Mais moi, j'ai repris dans mon intervention pour défendre le vote au nom de mon groupe une phrase de Yitzhak Rabin que je soumets aux éditeurs de France Culture. Et c'est vrai que nous sommes tous légitimement préoccupés sur la question du Hamas. Mais Yitzhak Rabin a affirmé avec beaucoup de force, je le cite, « vouloir combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix et poursuivre le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. » Je crois que cette volonté politique qu'il a exprimée, c'est aussi ce qui nous anime.
Et c'est
moi, j'ai connu Rabin et je savais aussi comment il voyait les choses, ainsi que les dirigeants palestiniens. On arrivait à la reconnaissance mutuelle au bout de la négociation. Il faut un accord sur les frontières et le mode de gouvernement. Je veux simplement dire, moi, je vais vous lire ce que j'ai sous les yeux.
Alors, au bout de la négociation, on va en reparler parce que Laurent Fabius y a
monsieur
fait
Long.
Largement allusion dans son
discours. Oui, mais on va y revenir. Mais juste sur le point du Hamas, j'ai sous les yeux la résolution qui a été adoptée hier même par le Parlement européen, par les deux groupes, donc le PPE et le PSE, les socialistes et les conservateurs. Le paragraphe G2, dit ceci, exhorte toutes les factions palestiniennes, y compris le Hamas, à accepter les engagements de l'OLP et à mettre un terme à leur division interne. Voilà. Tout est dit. Ça veut dire que la reconnaissance qui est la base de tout n'est possible que dès lors que toutes les parties palestiniennes sont sur la base de la reconnaissance mutuelle.
Alors,
c'est pas le cas. Voilà.
Alors, j'ai une question à vous poser, à vous, Pierre Lellouche. J'ai eu, il y a une dizaine de jours, sur I-24, un débat. J'étais en studio avec Bernard Lévy, et à Jérusalem, il y avait Nissim Sfili, ancien ambassadeur d'Israël en France, un homme tout à fait remarquable, ancien ministre de Rabin. Mmh. Et avec Eli Barnavi, il fait partie de ces Israéliens qui sont très favorables à cette initiative, parce que c'est un homme désespéré.
Il y a eu 700 intellectuels et responsables.
Mais justement, ministre, très intéressant, c'est un homme vraiment ancré dans Israël, un sioniste convaincu qui me disait si les choses vont à ce train, mes petits-enfants ne pourront plus vivre en Israël, car Israël ne sera plus conforme au sionisme. Et je lui disais, mais enfin, attention, ça peut même braquer, ça peut favoriser la droite, mais n'ayant plus aucun espoir de voir une majorité favorable à la paix se dessiner en Israël, il en appelait à l'Europe, il en appelait aux pressions, parce que ça ne peut pas continuer ainsi. L'occupation ronge Israël. Que répondez-vous à Nissim Sfili, Pierre Lelouch ?
Je réponds qu'il a raison. Sur le fond de la politique israélienne. D'ailleurs, François Loncle était présent il y a plus de quelques mois en commission des affaires étrangères quand l'ambassadeur actuel d'Israël à Paris est venu et je lui ai dit de façon extrêmement rude, brutale, à quel point le gouvernement actuel d'Israël était en train de mettre en danger la pérennité même de l'État d'Israël par une politique totalement aveugle. Car nous sommes dans une équation géopolitique aujourd'hui avec l'implosion des États du Proche-Orient. Ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie, c'est l'implosion des frontières de l'après... Sans parler de... Non, mais je parle des frontières de l'après-Première Guerre mondiale. Le découpage du traité de Versailles. Ces États qui sont nés de Sykes-Picot en 1916 sont en train d'imploser. Il y a une guerre sunnite-chiite qui est en train de remplacer toutes les autres. Et au milieu de ça, il y a une petite affaire pour quelques arpents de terre entre Israéliens et Palestiniens. C'était le moment de le régler. C'est le moment de le régler.
Mais est-ce qu'il n'est pas déjà...
Parce que les États arabes en ont marre, les peuples en ont marre, les Israéliens en ont marre, il faut reprendre la négociation. La question politique qui se pose, c'est de savoir si ces résolutions aident ou pas la reprise de la négociation. Permettez-moi de penser, avec tout le respect que j'ai aussi pour François et ceux qui, pensent pas, qui n'ont pas le même avis que moi, je ne pense pas que ça va aider. Car il faut remettre ça dans un... Maintenant, on reviendra peut-être tout à l'heure, M. Finkielkraut, sur la politique intérieure. Elle n'est pas complètement éloignée
de
ce qu'ont fait les socialistes
croyez-moi.
Dans cette affaire, croyez-moi. Mais il y a quand même un contexte diplomatique en ce moment. Qu'est-ce qui se passe à New York ? Il se passe à New York que les Palestiniens, depuis plusieurs semaines, pousse une négociation assez radicale. On appelle ça à New York l'intifada diplomatique des Palestiniens. Eux-mêmes sont désespérés. Ils ont décidé d'en appeler au Conseil de sécurité pour obtenir le retrait des Israéliens des territoires occupés, faute de quoi le chapitre 7, les sanctions, etc. Donc de traiter l'affaire par la force diplomatique. Naturellement, cette résolution a toutes les chances d'avoir un veto américain. La France, elle, essaye d'en sortir en proposant un processus que nous avons soutenu. La tentative de Laurent Fabius, qui consiste à dire « reprenons la négociation, fixons-nous un délai de 2 ans, à l'issue duquel la Palestine est reconnue, mais commençons la négociation et plaçons cette négociation sous un contrôle, sous une tutelle internationale,
on est d'accord, là.
Qui est celle du Conseil de sécurité, du quartet, encadré par une conférence internationale à Paris. Nous avons soutenu ça. Mais dans l'esprit de Fabius et du gouvernement, la reconnaissance de la Palestine vient à l'issue si ça n'a pas
avec une date butoir.
Avec une date butoir.
Mais on est d'accord là-dessus.
Là-dessus, nous soutenons. Mais est-ce que de dire nous reconnaissons tout de suite, quelle que soit la chose, va aider ou pas ce dispositif.
Oui, la question se pose quand même, François Loncle.
Mais bien sûr, mais j'y réponds immédiatement. Et Pierre Lelouch est un parlementaire, un excellent parlementaire. Et nous sommes tous les deux attachés au pouvoir du Parlement, qui sont parfois singulièrement ternis par beaucoup de conjonctures et même de dispositions constitutionnelles. Cette résolution, elle invite, elle est une impulsion.
Pour
elle
la négociation.
Une injonction.
Oui.
Et quelle est la réponse de Laurent Fabius dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale le vendredi où vous étiez tous présents et où Pierre est intervenu et moi aussi, c'est il y faut une négociation qui reprenne le plus vite possible. Tout ce que vient de dire Pierre Lelouch avec, mais alors ce qui était l'élément nouveau quand même, par rapport à cette résolution et par rapport à ce que nous avions entendu auparavant, qui était à notre gré un peu trop timide, c'est qu'il y a une date butoir. Si d'ici 2 ans, rien n'a abouti, on reconnaîtra la Palestine.
Alors, ce qui est différent de la résolution...
Mais la résolution, c'est une invitation. Pierre Lelouch, on ne va pas jouer sur les mots.
On peut dire un mot un peu quand même du contexte politique intérieur.
Non, pas tout de suite. Il nous reste du temps. Je ne laisserai pas cette question tomber, rassurez-vous.
Mais pour moi, très secondaire.
Mais pour moi, il y a une autre question qui vous intéresse aussi. D'ailleurs, vous en avez parlé, Pierre Lelouch, dans certaines de vos interventions. Il y a la politique intérieure israélienne. Netanyahou, Benjamin Netanyahou, a déjà dit qu'on ne pouvait pas lui imposer de date butoir, que c'était hors de question. Or, les Israéliens se préparent à des élections, puisque Tzipi Livni et Yair Lapid ont été chassés du gouvernement, renvoyés par Netanyahou. Des blocs se forment, notamment un bloc de centre-gauche. Les élections porteront, je crois, cette fois-ci, vraiment sur la question des négociations avec les Palestiniens. Et moi, je m'interroge, une résolution comme celle-là et les autres résolutions européennes vont-elles favoriser le bloc de centre-gauche et le bloc du centre qui se forment aujourd'hui, ou au contraire, le bloc de la droite et de l'extrême droite? Vous avez parlé, vous, Pierre Lelouch, du risque de braquer les Israéliens. Ce risque est...
À ce risque, j'ajoute, même si je soutiens complètement tous ceux qui cherchent la paix et qui veulent rompre avec cette politique de Netanyahou, mais le vice fondamental du système israélien, vous savez ce que c'est? Et je l'ai dit aux Israéliens, c'est la proportion.
Et bien sûr, et ils le savent d'ailleurs.
Tant qu'on ne change pas ce mode de scrutin, on ne peut pas avoir une majorité capable de prendre une décision aussi grave que de tracer les frontières, de virer les colons d'un certain nombre d'endroits.
Mais il y a aussi la proportionnelle, mais aussi l'argument. C'est-à-dire, est-ce que ces reconnaissances vont donner plus de poids à une campagne de droite et d'extrême droite du genre « personne ne nous aime, de toute façon on ne peut pas compter sur l'Europe, ils nous ont déjà trahis » ou plus de poids à ceux qui disent « vous voyez qu'il faut faire quelque chose ».
Je crois malheureusement que ça va plutôt aller dans la direction du phénomène de peur, quoi, de complexe de Masada, d'état de siège, d'un état abandonné par tout le monde.
Je crois.
Je ne veux pas en rajouter sur l'importance des résolutions. Je pense que c'est faire beaucoup d'air. Je pense que le cap de la politique de la France, pour le coup, est plutôt le bon, de donner une date butoir, d'essayer de ramener les gens autour de la table de négociation, plutôt que de rentrer dans des phénomènes de rupture. Soit je reconnais personne, soit j'attaque Israël devant le Conseil de sécurité pour exiger une sortie. On n'en sortira pas comme ça. Je crois que la mesure qui est prise en ce moment par la diplomatie française est la bonne, elle est sage. Est-ce que ces résolutions, la résolution française aide? Non. Est-ce que la résolution du Parlement européen? Oui. C'est beaucoup plus nuancé.
D'accord.
Et ça demande au Hamas de faire quelque chose, ce que le Parlement français ne fait pas, hélas.
Alors d'abord, moi je crois que le rôle d'un parlementaire, le rôle du Parlement, le rôle d'une majorité parlementaire, c'est d'essayer de faire bouger les choses, y compris de faire bouger le gouvernement lorsqu'on le juge trop timide. L'impulsion, c'est un terme qui me convient parfaitement. L'injonction, non. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait. On a jugé à un moment donné que le gouvernement français n'allait pas suffisamment loin et vite dans l'appréhension du problème. Et je crois, au contraire de Pierre Lelouch, qu'on ne peut pas en être certain, évidemment, que quel que soit le résultat des élections, et je partage évidemment son point de vue sur le caractère néfaste de la proportionnelle intégrale en Israël, mais il est arrivé à des gouvernements israéliens élus de cette façon de faire du bon boulot à certaines époques de la vie d'Israël. Je crois que la position que nous avons évidemment combattue à travers cette résolution du gouvernement Netanyahou est intenable.
Oui, intenable.
Est intenable à moyen terme.
Bien
au
sûr.
Moins. Et
mais
quels que soient les résultats des élections, s'il y a une inflexion à droite,
est-ce qu'il ne faut pas...
c'est encore plus intenable.
Oui, c'est plus grave, oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas tenir compte, non pas du complexe obsidional israélien, mais de ce que la crainte israélienne peut avoir de rationnel? Les Israéliens ont quitté le sud Liban, ils ont le Hezbollah. Ils ont quitté, certes unilatéralement, Gaza, mais complètement Gaza. Ils ont le Hamas avec des tunnels construits, non pas simplement pour ravitailler la ville, mais pour aller dans les kibbutz, etc. Un attentat horrible a lieu dans une synagogue de Jérusalem Ouest, hein, et on a un leader de l'autorité palestinienne disant que c'est une réaction légitime à l'occupation, et on entend aussi Mahmoud Abbas dire que la présence juive au Mont du Temple serait une sorte de contamination, parler de contamination juive qui risquerait de mener à la guerre sainte. Donc les Israéliens entendent tout cela, ils sont fondés à se dire, les Européens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas non plus que Daesh et l'islamisme radical a un retentissement aussi en Palestine et qu'ils sont, ils ont affaire vraiment à des ennemis redoutables. Donc il faut aussi entendre ce que les Israéliens ont à dire.
Toute François la première Lamont. Partie de vos questions, il faut dire oui, sans ambiguïté. Je comprends tout cela. Moi, je suis viscéralement attaché à l'État d'Israël et à sa sécurité. Très franchement, moi, mes parents étaient des justes qui ont protégé trois familles juives abritées pendant la guerre, dont la famille du grand journaliste Jacques de Rogy, qui s'appelait Jacques Weissmann, et qui est l'auteur en particulier du retour, de la loi du retour, c'est-à-dire l'histoire d'Exodus, et ce fut ensuite un grand journaliste de l'Express.
Oui,
c'était
oui,
notre ami, c'était mon frère, et par conséquent, là-dessus, c'est une des raisons de mon implication d'ailleurs, et de la recherche d'une solution de paix. Et encore une fois, en Israël, le camp de la paix n'est pas mort. Vous l'avez dit à propos d'Eli Barnavi et des 700 qui ont signé sa pétition. Il peut y avoir peut-être une surprise de centre-gauche. Enfin,
ah oui,
que soient les résultats, la position actuelle d'Israël n'est pas tenable.
Là-dessus, nous sommes d'accord.
Là aussi, je suis d'accord. Et puis moi, j'ai beaucoup d'estime, il le sait, pour François Loncle. Et je sais que sa démarche n'est pas inspirée par un jeu ni de politique intérieure, ni de faire du mal à l'une ou l'autre partie. C'est pas du tout sa démarche, je le connais bien personnellement. Il n'en demeure pas moins que cette question du Hamas n'est pas anecdotique. Et surtout dans le contexte que nous vivons, qui est une poussée du djihadisme énorme. Et il y a, une légère contradiction entre aller faire la guerre au Mali, et nous en occupons, François Loncle et moi, on est chargé par l'Assemblée nationale d'occuper de la guerre au Mali. Donc on a travaillé ensemble. Donc on fait la guerre au djihad au Mali. On fait la guerre au djihad et au Daesh en Irak. On vote des lois avec le soutien de l'opposition pour lutter contre les djihadistes français qui vont couper des têtes en Syrie et en Irak. Et en même temps, on fait comme si l'histoire du Hamas, la charte que je viens de vous lire, la violence qui est énorme, enfin, ces types ont tiré quand même plusieurs dizaines de centaines de missiles sur Israël, je veux dire, alors qu'il n'y avait pas nécessairement à ce moment-là de provocation particulière. Il y a donc une réalité, il y a des liens avec l'Iran, il y a des livraisons d'armes, il y a un problème.
Bon, Pierre, on ne peut pas faire l'amalgame en partie quand même entre Daesh et,
non, mais attendez,
et le Hamas.
Je ne suis pas d'amalgame, enfin, c'est quand même du terrorisme gravissime, à un moment grave. Donc mettez-vous deux secondes, moi je veux bien qu'on fasse la leçon à tout le monde, et notamment aux Israéliens, dire comment ils doivent assurer leur sécurité. Bon, enfin, est-ce que nous accepterions une résolution d'un État étranger, Israël, les États-Unis ou autre, pour nous dire comment organiser notre défense nationale? Franchement, personnellement, je vivrais assez mal.
Vous savez très bien les conséquences d'une non-résolution du conflit israélo-palestinien dans toute cette région du monde.
Nous sommes tous d'accord là-dessus. La question est de savoir si ce genre de démarche sert à quelque chose ou pas. Alors maintenant, je voudrais quand même en venir, un élément. Elle sert à un point quand même, cette résolution aussi, c'est à servir les intérêts du Parti Socialiste. Et là, je fais une différence entre François Loncle, qui est totalement vierge de ce point de vue-là.
Et désintéressé,
mais c'est pas du tout
sa
démarche.
Merci de le dire.
Mais non, je le pense vraiment.
Et ça s'entend.
Et d'autres qui le sont moins. Parce que dans le timing de cette affaire, M. Finkielkraut, il faut quand même savoir que, avant la résolution préparée par M. Hamon et par M. Loncle, il y avait deux textes en préparation et déposés au Sénat par les Verts et les communistes. Deux textes. Et qui devaient être débattus à la mi-décembre. Tout a été fait.
Qui était excessif.
Je suis content que vous le reconnaissiez en disant cela. Tout a été fait donc du côté du gouvernement et de l'Assemblée pour inscrire en urgence ce texte socialiste dès le début du mois de décembre, de façon à couper l'arbre sur pied à ses alliés encombrants.
Trois semaines de travail.
D'accord.
Et Benoît Hamon est dans le même état d'esprit que le mien.
D'accord. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a en France une très forte communauté musulmane. que cette communauté musulmane, et on l'a vu dans les résultats électoraux, on a regardé les bureaux de vote, on n'est pas aussi précis que la Brookings, qui vient de sortir hein, une étude très très précise sur les votes ethniques aux États-Unis. Là-bas, ils ont des statistiques ethniques. Mais nous, on sait que dans les bureaux de vote, dans les banlieues, entre guillemets, à forte population immigrée, au présidentiel de 2012, 95% des voix ont été à François Hollande.
Oui.
Sur certains bureaux. Donc, il y a un vote qui a été très fort en direction de François Hollande. On a un François Hollande aujourd'hui qui est un tout petit peu affaibli. Qu'est-ce que font les socialistes en ce moment ? Affaibli, pourquoi ? Parce que le mariage, bien sûr, les situations économiques, mais le mariage pour tous.
Oui.
Plus une politique, en effet, jugée pendant l'affaire de Gaza trop pro-israélienne, ont amené une partie de cette population musulmane à s'éloigner de l'actuelle majorité. Et moi, j'observe, mais pardonnez-moi, j'ai peut-être un mauvais esprit, j'ai pas non plus de lunettes de soleil, je regarde la réalité. Qu'est-ce que je vois ? Je vois que ce texte, en précipité, a été mis là pour couper l'aide sous pied des Verts et des communistes. Je vois que dans la foulée, d'autres gestes importants ont été faits en direction de l'immigration, visite de la Cité de l'immigration.
Oui, c'est un discours quand même.
Discours absolument irénique. Sur l'immigration, à milieu de ce que vivent, pardon, hein, les Français baguettes beurrées, hein, ceux qui sont, entre guillemets, les Français de souche, pas sûr qu'ils aient parfaitement compris ce qu'a dit le président, la chance, etc. Quand on fait rentrer 300 à 350 000 immigrés par an en France, on a un problème. Et moi, je dis qu'on
c'était
a
c'était la
problème.
Même chose avant.
Non, attendez. Alors, moi, je viens à une autre émission pour vous donner mes chiffres.
Oui, mais justement, ce n'est pas tout ce que vous abordez depuis 5 minutes.
Je dis qu'il
nous
fait.
Sort un peu d'un sujet
non,
capital.
On est en plein dedans
qui regarde
parce
la paix du monde.
Pas vous, monsieur Long, parce que vous avez passé, j'allais dire passé l'âge, mais vos amis font de la politique intérieure avec cette affaire. Ils ont essayé de récupérer un vote arabe qu'ils avaient perdu, un vote musulman. Et que, donc, je termine. L'annonce aussi d'un plan banlieue à 5 milliards. Plus la cité de l'immigration, plus la résolution sur la Palestine, tout ça en 15 jours, c'est quand même pas l'effet du Saint-Esprit.
En plus, c'était la stratégie préconisée par Terra Nova il y a quelques années. Oui. Hein, c'est-à-dire, on perd une partie du peuple au sens traditionnel, donc on va regagner les quartiers populaires, les minorités, les femmes, les jeunes, les bobos.
Les quartiers
on a l'impression que ça recommence.
Les
quartiers populaires
et Pascal Boniface,
au sens que la Nova
directeur
lui donne.
De l'IRIS, écrivant des notes au PS, qui ont été publiés et qui m'ont amené d'ailleurs à me retirer de l'IRIS, disant le Parti Socialiste doit maintenant avoir une politique arabe et viser, on a été trop pro-israélien, la communauté musulmane c'est 10 fois la communauté juive en France, donc il faut avoir une politique arabe. Ça, c'est quand même pas moi qui l'ai inventé, j'ai cette note à votre disposition à l'époque, c'était avant Jospin, c'était en 2007.
Oui, 2001. C'est d'ailleurs pour ça que,
François Long.
De manière injuste, Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, a été exclu du Parti Socialiste. Et par conséquent, mais nous sommes loin du sujet qui nous occupait au début.
Je dis c'est peut-être injuste, mais
très franchement. Et là, je vais non pas faire des révélations, mais vous dire un peu la tonalité. Lorsque nous avons fait cette proposition, effectivement, dans l'idée notamment de Benoît Hamon, il y avait ce que nous avions perçu des démarches des écologistes du Sénat et du groupe communiste du Sénat. Et on se disait, cette proposition est totalement déséquilibrée. Enfin, il y avait des termes qui ne pouvaient être admis. Et donc, faisons notre propre proposition, comme nous l'avions fait par rapport à Hervé de Charette, d'ailleurs, en 2011. Simplement, d'abord, quand vous faites allusion aux quartiers populaires et aux banlieues. Il ne faut pas résumer les quartiers populaires et la banlieue au monde musulman, franchement.
Il y a quand même... Oui, mais tout le monde dit... Bon. Quand on dit quartier populaire, les gens entendent très bien quartier
très
à majorité immigrée ou
assure.
Enfant d'immigrés, d'autant qu'il y a en effet
90%
disons 70-80% d'enfants de population étrangère.
Les Africains ne sont pas forcément...
Mais toute l'Afrique de l'Ouest qui vient en France est musulmane.
Branché sur la résolution de la Palestine. Non, je regrette que la fin de votre excellente émission ait dérivé à ce point sur des motifs de politique intérieure qui n'étaient pas les miens et qui n'étaient pas ceux de la majorité du groupe socialiste.
Nous ne sommes
et
pas...
je vais ajouter une chose, simplement, si vous le permettez, c'est que quand nous avons commencé ce travail, qui n'était pas un travail d'urgence, dans la mesure, il est rare que sur un texte aussi court, nous ayons travaillé 3 semaines avec une douzaine de réunions. Eh bien, je peux vous dire qu'au départ, quand nous sommes allés les voir, Laurent Fabius, le ministre, le président François Hollande, il n'était pas enthousiaste sur notre démarche. Hein. Je pèse mes mots. Donc, ça prouve bien que de leur part, en tout cas de la part du président de la République, il n'y avait pas cette espèce d'impatience à faire plaisir à tel ou tel.
Alors, en même temps, nous allons quitter...
Je voudrais juste dire un dernier mot. J'étais avec Elisabeth Guigou, donc présidente socialiste de la Commission des affaires étrangères.
Qui a beaucoup travaillé sur ce texte.
Nous étions, oui, justement, c'est pour ça que je la mentionne. Nous étions tous les deux en mission, il y avait un autre député socialiste, nous étions tous les deux en mission à l'ONU pendant toutes ces négociations autour de la Palestine, et elle a présenté le projet. Et moi, je lui ai dit, j'ai un ou deux problèmes, dont le Hamas, réécrivons-la ensemble, et faisons en sorte qu'elle soit déposée par la droite et la gauche, et qu'on garde ce consensus bipartisan qu'on avait depuis 40 ans, qui est processus de paix, reconnaissance à l'arrivée. Eh bien, elle m'a dit, nous, on veut le déposer maintenant.
Oui, mais c'est
on veut le déposer maintenant parce qu'il y avait une espèce de course-poursuite
surmonter les clivages
entre le PS,
les écolos
et les Verts,
par exemple.
C'est ça le sujet.
Quand vous pensez, il y a des moments pour surmonter les clivages. Et moi, je ne suis pas un partisan, vraiment, que l'on... le plus souvent possible, on puisse voter des textes communs. Mais actuellement, l'état d'esprit n'est pas celui-là, vous le savez bien, y compris au sein de votre groupe.
On a voté avec vous
de Monsieur
la
Sarkozy,
totalité de la loi sur le djihad. On a voté
oui,
ce
texte.
Oui, mais
ça, d'accord. Mais d'accord.
Entièrement.
Un dernier mot sur la politique intérieure, et ensuite, je voudrais avoir votre vision de l'avenir, et je voudrais que vous me disiez quelles sont les initiatives qui peuvent être prises, soit par le gouvernement français, soit par l'Union européenne. Un dernier mot, parce que l'imam de la mosquée de Lunel, interrogé sur la contagion djihadiste à Lunel. Une douzaine de jeunes de Lunel sont partis faire le djihad, un certain nombre sont morts. Voici ce qu'il a répondu. C'est leur choix, je n'ai pas à les juger, seul Dieu les jugera. Si on doit condamner quelque chose, on doit condamner ce qui est condamnable. Pourquoi condamner ces jeunes qui sont partis au nom d'une injustice en Syrie et pas ces Français qui sont partis et ont tué des bébés palestiniens avec ça l'été dernier? Je ne sais pas si des sanctions ont été prises contre cet imam, mais ce propos n'est pas tombé du ciel. C'est une ambiance qu'on a vue dans les manifestations, dit-on, pour Gaza tout au long du mois de juillet. Et il ne faut surtout pas, enfin, me semble-t-il, flatter ce genre d'opinion-là. Parce que, où irait-on ? Donc, la réconciliation avec un certain électorat ne peut pas passer sous silence des propos comme celui
de
l'imam de Lunel.
Alain Finkielkraut, je vais tout de suite vous rassurer, s'il en est besoin, vous avez fait allusion à Gaza, en aucune façon, la résolution ignorée par ce genre de personnage, a une influence quelconque sur ce qu'il a pu dire. Ce qu'il a dit est scandaleux, honteux, et mérite sanction. Et Pierre Lellouche, je pense, en fait partie. Nous avons créé hier, à l'initiative du groupe UMP, mais avec, évidemment, une commission d'enquête. Voilà, Pierre Lellouche.
C'est moi qui ai proposé.
Absolument. Et j'en fais partie, avec comme président M. Ciotti, oui, et comme rapporteur M. Minucci, une commission d'enquête qui va travailler sur le problème des Français qui partent au djihad. Pourquoi? Comment font-ils? Qui les aide? Quelle est la riposte possible? On va faire ce travail. Et permettez-moi de vous dire que pendant ce travail, on va s'occuper d'un certain nombre de choses et de gens du type de l'imam de Lunel.
Oui, moi je veux dire quelque chose. D'abord, je remercie François Longue de avoir appelé cette commission d'enquête. Ce n'est moi qui en ai pris l'initiative, et en accord avec Éric Ciotti, c'est lui qui en assure la présidence. J'ai préféré qu'il en soit ainsi. Je voudrais dire ceci. À de multiples reprises, tous ces derniers mois, et compte tenu de la montée des actes antisémites qui ont explosé en 2014, et des propos antisémites. Il n'y a pas eu que Dieudonné. Il y a eu mort aux Juifs dans les rues de Paris. Il y a eu des attaques de magasins juifs. Jusqu'à cette horreur de Créteil, où pour la première fois depuis les années 30 ou 40 en France, on entre chez les gens, parce qu'ils sont juifs, pour les voler, les piller, les violer. C'est inouï.
Absolument.
Inouï. Depuis 70 ans. Jamais vu ça. Jamais vu. Bon. Que dit le gouvernement, à juste titre?
Il est très grande
N'importons
fermeté.
Pas. Attention à ne pas importer les violences du Proche-Orient dans la République.
Et vous le dites aussi.
Qu'est-ce que vous faites avec cette résolution, monsieur Lowe?
Franchement, là...
Sinon,
jusqu'à maintenant, moi j'avais acquiessé à ces propos.
Mais de dire François, que...
À la limite, vous êtes en train de dire que ce qui s'est passé à Créteil, c'est de la faute de la résolution, mais c'est monstrueux.
Mais c'est pas ça que je dis. Je dis que ça contribue à un climat de passion dans lequel il est extrêmement difficile de calmer le jeu entre guillemets les communautés. Vous savez que
c'est
comme
une
moi,
démarche de paix que nous avons
on
produite.
En est, okay.
Une démarche de paix.
Je suis sûr que dans votre bouche, vous pensez ce que vous dites.
Mais des 339 donc, qui l'ont voté, y compris vos amis.
Les remarques qui sont les miennes ne s'adressent pas à vous. C'est une constatation, j'allais dire presque clinique, hélas. Dans une situation marquée par autant de tensions et de violences, où il y a une demi-douzaine de jeunes Français... Ils sont 6 par semaine qui partent au djihad en ce moment. Où on a vu un jeune Français élevé à Toulouse, monsieur Mera, jeune Mera, 20 ans, prendre une petite fille de 7 ans par les cheveux et lui mettre une balle dans la tête. Mais dans un climat comme ça, aller dire que le Parlement de la République reconnaît littéralement la Palestine.
Non, il y a un mélange, qui m'étonne de vous.
Il est vécu par
c'est parce qu'on est en fin d'émission, je ne sais pas, mais c'est absolument
insupportable, cette politique, franchement, et ce n'est pas digne de vous. Largement irresponsable. Je pense que vous-même ne mesurez pas les conséquences des actes que vous prenez. Et c'est l'un des problèmes de ce gouvernement, d'ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas vu le président ou le ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre. Parce que je pense qu'en dehors des difficultés difficultés diplomatiques que ça va faire pour la neutralité de la diplomatie française,
vous êtes en train d'aggraver... Mais vous ne pouvez pas dire que le Parlement anglais, le Parlement espagnol, le Parlement suédois, le Parlement français, le Parlement européen produisent des textes qui vont mettre le feu à je ne sais quelle communauté.
D'abord, l'Angleterre ou l'Espagne n'ont pas cette caractéristique que nous avons, qui est d'avoir la plus forte communauté juive d'Europe, et nous avons plusieurs millions... Alors, un chiffre inconnu.
Mais il y a beaucoup d'immigrés et de musulmans en Grande-Bretagne aussi. Oui, ça a pu compter aussi, d'ailleurs.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait notre implication, de la France, depuis des décennies.
Alors, les minutes qui nous restent, voyons un peu l'avenir. Amos Oz a dit de Netanyahou qu'il avait formé le gouvernement le plus antisioniste de l'histoire d'Israël. Ben, il pense effectivement qu'on va vers l'État binational et à ce moment-là, ça en serait fini. Du rêve sioniste. Donc, il y a cette inquiétude en Israël. Il y a ce désespoir des Palestiniens. Que peut faire, à votre avis, d'utile le gouvernement français ? Que peut faire aussi l'Union européenne dans l'état actuel des choses ? Pierre Lellouche.
Moi, je pense honnêtement, après avoir dit du mal des calculs de politique intérieure qui, malheureusement, ne sont pas absents de tout ça, je pense que le cap diplomatique actuel qu'essaye de mener Laurent Fabius, c'est-à-dire entre la résolution palestinienne et le risque de veto américain, d'essayer de repartir en encadrant, et il a raison, en encadrant la reprise de la négociation par une surveillance internationale, ça me paraît indispensable. On ne peut pas laisser les jeux de politique intérieure, des divisions palestiniennes d'un côté, les surenchères israéliennes de l'autre, continuer comme ça ad vitam aeternam, parce que c'est en train d'abord de condamner. Et je crois vraiment, non seulement l'État d'Israël, mais de condamner cette région à continuer à vivre dans une sorte de guerre permanente. Est-ce que c'est le problème... Alors, paradoxalement, est-ce que c'est le problème géopolitique numéro un en ce moment ? Non. L'essentiel des morts aujourd'hui, ils sont faits par des musulmans contre d'autres musulmans. C'était le cas la semaine dernière au Pakistan, c'est le cas tous les jours en Syrie, c'est le cas tous les jours en Irak. La guerre, elle est entre ceux qui sont plus ou moins sunnites et ceux entre les sunnites et les chiites. Il n'empêche qu'il faut essayer de régler cette affaire. Je pense que la méthode française est la plus raisonnable. Je pense qu'il faut que les Américains commencent à serrer la vis sérieusement. Mais nous, on est aussi en droit... François, je pense que vous serez du même avis, par rapport aux milliards d'euros qu'on verse sur l'autorité palestinienne, d'exiger que le Hamas modifie sa charte, comme on l'avait obtenu à l'époque pour l'OLP. Dès lors qu'on a un serrage de vis des deux côtés et qu'on encadre le processus, on doit pouvoir y arriver, parce que les bases de l'accord sont connues depuis Tabar. On sait exactement à quoi ressemble... Même avant Clinton. Les paramètres conclus entre Rabin et Sadat...
Et c'est aussi la conférence de Genève.
Tous les paramètres sont sur la table. Et ils sont archi connus.
J'ai assisté à Genève à la signature de ces accords.
C'est pour ça que c'est frustrant. Parce qu'on sait le point d'arrivée. Ce qui manque, c'est la volonté politique des deux côtés. Et donc, serrage de vis et surveillance, à mon avis, c'est probablement la meilleure méthode.
Ben, bon,
je des deux côtés. Que, je des suis deux côtés. On termine sur un accord assez complet. Le travail qu'a effectué Laurent Fabius ces temps derniers est tout à fait positif. Vous savez que aux Nations Unies, dans la préparation de cette résolution, qui est aidée en particulier par la Jordanie, je crois,
oui, qui porte a mis la résolution palestinienne.
Exactement. Laurent Fabius est intervenu à maintes reprises pour essayer, on ne sait pas s'il y aura à terme le veto américain, mais il y a des contacts quotidiens avec les États-Unis à l'ONU pour essayer de voir et de faire passer cela. Il semble que le président Obama, sur d'autres plans, ait pris des initiatives audacieuses, j'allais dire enfin, peut-être va-t-il aussi s'impliquer dans la résolution de ce conflit terrible. Donc je partage largement les conclusions. Il faut une conférence internationale, si possible. Il faut reprendre les négociations. Et il faut mener la négociation jusqu'au bout et conclure cette négociation.
Et le contexte géopolitique inclure, est favorable.
Inclure,
et le contexte, exactement. Oui. Objectivement favorable.
Exactement.
Oui. Ce qui est en train de se passer tout autour, et qui est gravissime, parce que l'implosion de l'Irak, c'est gravissime. La disparition de la Syrie, c'est gravissime. Les risques que ça entraîne pour le Liban et la Jordanie, qui risquent d'être rayés de la carte.
Mais il y a des Israéliens qui pourraient dire non, ce n'est pas favorable, parce que le front du Golan risque de se rallumer, étant donné si la Syrie disparaît. Le Daesh peut avoir une influence sur les Palestiniens.
C'est pire que ça. De facto, Israël, maintenant, est allié avec l'Arabie Saoudite. L'une des raisons de l'intransigeance de Netanyahou, c'est qu'il sait très bien qu'il a avec lui l'Arabie Saoudite et le Golfe contre l'Iran. Parce que le problème numéro un, vu de Jérusalem, Tel Aviv, c'est l'arme nucléaire iranienne et la montée de l'Iran. Donc aujourd'hui, ils sont objectivement alliés avec les sunnites du Golfe. Et donc, du point de vue israélien, on touche à rien. Mais c'est là, justement, que nous devons peser. Est-ce qu'il fallait peser comme ça? Je persiste à penser.
Mais il faut peser.
Mais il faut peser de toutes nos forces. Vous savez quel était le titre de le discours que Pierre Mendès-France a prononcé en 1974 que j'ai cité? Faire la paix, c'est plus difficile que faire la guerre. Ben, il faut faire la paix.
Très bien, ben, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup François Loncle, merci Pierre Lelouch. La semaine prochaine, nous rediffuserons pour les fêtes de fin d'année l'émission du 15 février 2014, La forme animale, avec Jean-Christophe Bailly et Jacques De Witt. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Vincent Abouchard. À la technique aujourd'hui, Tristan Gratalon. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, Le rouge, couleur multiple.